Voilà pour ce bulletin de la soirée.
I have a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, liberty and justice for all.
Bonsoir, c'est vous, madame, messieurs, Eric Urban-Batiza avec vous. Ravi de vous retrouver sur VOA Afrique. Lionel Lunani-Lagahima assure la mise en onde. Bienvenue à tous dans l'Amérique et vous. Human Rights Watch a dénoncé récemment des exécutions extrajudiciaires de 180 personnes ces derniers mois à Djibo, dans le nord du Burkina Faso. Selon Human Rights Watch, les preuves disponibles suggèrent l'implication des forces de sécurité gouvernementale dans des exécutions extrajudiciaires de masse perpétrées sous couvert de lutte anti-djihadiste. Les États-Unis ont exigé une action rapide des autorités burkinabées contre les exactions commises par ces forces de l'ordre contre des civils sous couvert de lutte antiterroriste, menaçant sinon d'arrêter leur soutien sécuritaire au Burkina Faso. Nous en parlons dans un instant avec nos invités. Karine Duca, directrice pour l'Afrique de l'Ouest de Human Rights Watch. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bienvenue dans l'Amérique et vous.
Merci infiniment.
Ismaël Diallo, activiste burkinabé. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous dans cette émission de l'Amérique et vous. Nous avons souhaité avoir quelqu'un du gouvernement de Ouagadougou, mais sans succès. Corinne, je vais commencer avec vous. Le secrétaire d'État américain adjoint pour l'Afrique, Tibor Nagy, a qualifié le rapport de très préoccupant. L'émissaire américain pour le Sahel, Peter Pham, a dit que ces abus mettent en danger le partenariat avec les USA. L'ambassade américaine à Ouagadougou s'inquiétait du nombre continu et croissant d'allégations d'abus. La délégation de l'Union européenne au Burkina Faso a appelé les autorités burkinabées à faire la lumière sur des exactions commises. Corinne, votre rapport a eu de l'impact, n'est-ce pas?
Oui, on est vraiment, on est content de la réponse et on espère que le gouvernement va réagir d'une façon et qu'il y a la volonté politique de faire une vraie enquête sur les allégations pour mettre à la lumière qui sont le corps des 180 personnes qui ont été découvertes dans le roue autour de Djibo. Et c'est qui les auteurs, c'est qui les personnes qui avaient fait les exécutions. Donc on espère que le gouvernement va vraiment faire, cette fois, va faire une enquête crédible et indépendante.
Donc la mission n'est pas encore accomplie.
Non, c'est pas encore, c'est le début et on est un peu inquiet parce que c'est pas la première fois que nous, comme Human Rights Watch, que les autres organisations de défense des droits humains nationales, c'est-à-dire Burkinabé et internationales comme Amnesty, ont dénoncé les exactions commises par les forces de l'ordre. Mais c'est pas la première fois que le gouvernement avait promis de faire les enquêtes, mais jusque le moment, les enquêtes qu'ils ont promis ont pas avancé. Donc, c'est pour ça qu'une enquête doit vraiment dissuader les exactions. Mais lorsqu'il n'y a pas les avances sur les enquêtes, donc les auteurs pensent qu'ils peuvent continuer de faire les exactions sans aucune crainte d'être tenus responsables.
Voudriez-vous nous décrire les faits?
Oui, non, vraiment, on avait parlé avec 23 habitants des villes de Djibo qui a parlé à partir de novembre 2019. Ils ont commencé à voir le corps des suspects qui étaient trouvés morts. Le corps était découvert le long de la route principale, sur la route de Djibo à Ouagadougou, sur la route de Djibo à Dori, sur le pont, dans les champs et dans le terrain vague. Ils ont aussi décrit comment dans le mois de mars et avril, il y en avait plusieurs enterrements massifs dès le corps. Et pour les habitants, tous ont pensé que le mort était le suspect qui avait été interpellé par la force de l'ordre et après tué et laissé mort.
Monsieur Diallo, que se passe-t-il au pays des hommes intègres?
Je crois que Corinne a bien expliqué ce qui se passe. Mais en préambule, j'aimerais y être mischievous, comme on dit en anglais, pour dire qu'en tant que Burkinabé et Africain, comme les autres, nous n'aimons pas beaucoup qu'on nous montre du doigt ou qu'on nous fasse la leçon, même quand il s'agit des questions de droits de l'homme ou de gouvernance. Hélas, dans des cas comme ça, on est bien content que Human Rights Watch donne de la voix. Et c'est important parce que, comme nos autorités ne le font pas, et les OSC, les organisations de la société civile locale, lorsqu'elles parlent, elles ont quelquefois peur d'aller très loin, de mettre le doigt sur la plaie. Et quand le font, elles sont tout de suite taxées d'être contre le gouvernement. Bon, oui, c'est bien, franchement, de l'avoir dit, et il faudrait que la voix soit encore plus forte. Que cela vienne de l'extérieur, c'est dommage, mais jusqu'à ce que nous nous prenions nous-mêmes en charge et que nous reconquérions notre propre estime de nous pour le respect de chacun, ben, il faudra, hélas, que l'appel vienne de loin.
Vous vous sentez donc interpellé par le contenu de ce rapport, mais quelle crédibilité donnez-vous à ce qui est décrit?
C'est vrai, Human Rights Watch ne vient pas inventer ce genre de choses. Je ne suis pas son avocat ni son représentant, mais il n'a aucun intérêt de venir inventer ces choses. Et Human Rights Watch n'est pas la voix d'une puissance qui a des intérêts hégémoniques vis-à-vis du Burkina ou du Sahel burkinabé. Bon, compte non tenu de certains actes. Ceci dit, il s'agit des questions de droits de l'homme, il s'agit de faits avérés. Des gens sont morts, des gens sont exécutés. Bah, si c'est faux, qu'on prouve que c'est faux et que c'est de la calomnie. Si c'est vrai, qu'on admette que c'est la vraie, que c'est la vérité, et qu'on mène des enquêtes crédibles et sanctionne les personnes qui sont auteurs.
Corinne, le porte-parole du gouvernement Rémi Fulgence Dandjinou a estimé que les allégations de Human Rights Watch faisaient une lecture équivoque des efforts mis en œuvre par les forces de défense et de sécurité face à une guerre imposée par des mouvements terroristes, des hommes armés non identifiés. Votre réaction?
Oui, d'abord, c'est important de dire que la situation des droits humains à Burkina Faso, c'est vraiment très, très inquiétant. Il y a vraiment l'État Burkina Faso a une vraie menace. Et nous-mêmes, on avait écrit plusieurs rapports par rapport aux exactions des djihadistes qui, dans les années, dans l'année 2019 et 2020, ont beaucoup détérioré. Ils ont tué le centaine de civils innocents dans le champ, dans le convoi, dans les églises. Donc, vraiment, il y a une vraie menace que le Burkina Faso, que l'État est en train d'affronter. Mais par nous, tuer le suspect, ils ont qualifié comme suspect les gens qui ont été apparemment tués pour la force de l'ordre. Mais ce n'est pas ça la façon des luttes contre le terrorisme. C'est vraiment contre la loi nationale et internationale. Donc, qu'est-ce que le gouvernement avait dit? Le gouvernement a suggéré que les gens qui étaient tués par le djihadiste, qui avaient pris l'uniforme, qui avaient volé l'uniforme de l'armée. Mais c'est intéressant parce que pour les habitants, ils ont donné plusieurs raisons pour lesquelles ils pensent que ce n'était pas le djihadiste, que c'était la force de l'ordre. D'abord, Djibo, c'est une ville avec une forte présence de l'armée. Il y a une base de la gendarmerie et de l'armée. Deuxièmement, il y a un couvre-feu. Troisièmement, les gens ont une dizaine de noms témoins. Avez-vous les gens qui avez-vous après mort? Ils avons vu la dernière fois arrêté pour la force de l'ordre. Ils ont décrit comment ils ont entendu le son de la voiture dans la nuit, le son de leur coup de feu, et le lendemain, ils ont trouvé un groupe de gens, 5, 6, 7, jusqu'à 20 morts. Donc, pour eux, et la dernière raison pour laquelle les gens pensent que c'était le djihadiste, parce qu'ils avaient une peur extrême de la force de l'ordre. Donc, c'est-à-dire, je crois que dans l'ensemble, tout ça, pour nous et pour les habitants, pointe le doigt sur sur le Fort Taylor, parce qu'ils ont dit qu'aucun autre groupe armé peut circuler dans une ville comme Djibo librement dans la nuit et tuer les gens. Donc, c'est pour ça qu'ils ont dit que vraiment, ce n'était pas les djihadistes. Ils ne savaient même pas qu'il y en avait une bataille entre les djihadistes et le Fort Taylor.
Est-ce que vous avez rencontrer les autorités à Burkinabé avant de sortir votre rapport? Est-ce que vous intégrez aussi leur point de vue?
Ah, bien sûr. Avant de chaque rapport qu'ils ont fait, on envoie une lettre avec les conclusions principales de leur rapport pour donner, parce que c'est juste de donner le gouvernement une chance de réagir. On est vraiment clair par rapport à ça. Et donc, on avait envoyé une lettre au gouvernement avec le tendance, le findings plus grand de leur rapport. Et ils ont envoyé une lettre. Qui avait venu de le ministre de Défense lui-même, ministre Si, dans lequel ils ont engagé d'enquêter les allégations. Ils ont parlé de cette thèse de qui pouvait être le djihadiste qui avait volé l'uniforme des autres. Ils ont parlé d'une recrudescence des attaques des djihadistes, qui c'est vrai, il y en avait beaucoup des attaques des djihadistes depuis 2019. Il aussi qui a parlé de l'ouverture d'un bureau de la haute commissariat des droits humains de la Nation Unie. Donc, ils ont aussi réaffirmé leur engagement par rapport aux lois internationales.
Monsieur Diallo, comment vous interprétez cette réponse du gouvernement de Ouagadougou?
C'est une fuite en avant et une persistance de rester dans l'erreur. Alors, c'est la pire des manières de combattre le terrorisme. On ne combat pas le terrorisme seulement avec des balles. On combat le terrorisme avec l'esprit, en s'attaquant à l'esprit des terroristes, pas à la Kalachnikov, aux armes des terroristes. Une Kalachnikov, des armes, un terroriste, on en remplace dès qu'on n'en a plus. Mais l'esprit, là, lorsqu'on le change, on a un résultat pérenne. C'est là le problème. Donc, ne pas comprendre cela, c'est ou faire preuve d'une ignorance insondable, obtuse, ou alors c'est persister dans l'erreur et dans la fuite en avant. Mais dans cette fuite en avant, non seulement on ne gagne pas la guerre contre les terroristes, parce qu'eux, ils ont plus de ressources de se refaire, de différentes manières, et en plus de cela, on aggrave la déchirure sociale, on crée des opposants de plus en plus. Je vais vous dire une anecdote, s'il vous plaît. En mars 2016, quelqu'un m'a téléphoné à Ouaga, et il m'a dit « Ah, grand frère, j'aimerais venir vous voir, il y a des gens qui veulent vous voir. » Il est venu avec trois personnes qui se sont présentées comme des bergers et qui ne parlaient pas français. Ces bergers, deux parmi eux, ont passé 40 minutes à me raconter toutes les exactions qu'ils vivent tous les jours dans les zones rurales. Et ils concluent, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Le troisième qui ne parlait pas, je lui ai demandé pourquoi il ne dit rien. Il m'a dit, je ne peux rien dire parce que chaque fois que je parle, on me donne tort. J'ai dit, non, mais dis-moi de quoi il s'agit. Et il m'a dit, quand nous allons chez le gendarme, on a tort. Quand nous allons chez le policier, on a tort. Quand nous allons chez le douanier aux eaux et forêts, chez l'agent des eaux et forêts, on a tort. Quand on va chez le notable, quand on va chez le préfet, quand on va chez le haut commissaire, on a tort. Quand on va chez le juge, on a tort. Et en dehors de la réunion, on nous dit, va un bœuf ou deux bœufs, amène l'argent et l'affaire est close, puisque vous avez de l'argent. Et ce troisième me dit, puisqu'on dit que nous avons de l'argent, moi j'ai dit à mes amis, si c'est ça, vendons des bœufs, achetons des armes, pour nous protéger et attendons qu'on nous attaque. Mais on me donne tort. Et il y a combien qui ont été réduits à faire cela parce qu'ils avaient le dos au mur?
Comme on dit, la nature a horreur du vide, n'est-ce pas, Corinne? Est-ce que c'est la même situation que vous voyez dans le reste des pays du Sahel?
Oui, je crois que c'est évident qu'il y a plusieurs problèmes avec la gouvernance. Et c'est surtout le problème de la mauvaise gouvernance, la corruption, l'extorsion de le juge des pays, de les eaux forêt, de la vétérinaire. Donc c'est tout ça qui a vraiment poussé les gens parfois d'adhérer aux djihadistes. Et comme les djihadistes sont très stratèges, donc ils analysent les revendications de la population groupe par groupe, et après ils exploitent le problème, le souci, le besoin de la population, et après ils viennent parfois et ils gagnent la guerre morale parfois. Et ça, c'est vraiment c'est une des raisons pour lesquelles en profondeur qu'il y a certains gens qui ont soutenu le groupe islamiste armé. Et aussi la situation de la stratégie antiterroriste agressive qui a adopté certains de le gouvernement dans le Sahel, ça c'est a beaucoup compliqué la situation aussi. Et c'est en train de devenir un problème qui a compliqué la même guerre contre le terrorisme. Parce que moi, ça fait pas longtemps, j'ai publié une tribune dans Le Monde pour l'occasion de la sommet à Mauritanie, dans laquelle je parle de cette dynamique, de que comme c'est les exactions de la force de l'ordre. La force qui sont mandatées pour protéger la population, et aussi c'est la stratégie d'utiliser le milice comme Dana Massago, le Dozo, le Kogolyogo dans la lutte contre le terrorisme, et leur exaction qui est en train de pousser les gens plein de vengeance pour le meurtre de leur papa, le grand-père, le frère. Ils sont en train de pousser tous les jeunes là, plein de vengeance dans le rang de djihadistes. Parfois, même c'est un militaire de la zone qui m'a dit, ça fait pas longtemps, que parfois c'est la lutte antiterroriste qui est en train de créer plus de problèmes que le terrorisme eux-mêmes.
L'Amérique et vous, en direct de Washington.
Vous suivez l'Amérique et vous, Eric Malracusa, toujours avec vous au micro. Monsieur Diallo, le secrétaire d'État américain adjoint pour l'Afrique, Tibor Nagy, a déclaré que l'aide américaine pour la sécurité ne peut pas continuer sans une action des autorités burkinabées contre les abus. Est-ce que l'arrêt éventuel de cette aide ne risque pas de créer plus de problèmes?
La mentalité des gens au pouvoir, au Burkina comme ailleurs, est de trouver des systèmes pour échapper aux sanctions. Lorsque j'entends que le gouvernement américain a saisi les biens de tels dirigeants soudanais ou de quelque autre pays d'Afrique ou d'ailleurs, ou a bloqué les comptes et tout ça, je me dis, mais est-ce que ces gens ont ces biens aux États-Unis et ces comptes aux États-Unis? Ou n'ont-ils pas déjà fait des arrangements pour échapper à ces sanctions? Donc, les sanctions dont parle le secrétaire d'État américain n'auront d'impact que si cela touche la classe dirigeante, et si cela touche la classe politique, et si cela touche les leaders d'opinion. Et quand je dis les leaders d'opinion, je parle de tout le monde, y compris les syndicats et les autres.
Corinne, est-ce que vous plaidez pour l'arrêt de l'aide au cas où les vrais responsables ne répondent pas de leurs actes?
Oui, donc pour nous, notre plaidoyer, c'est envers surtout l'importance de la justice. C'est à cause de ça que nos recommandations principales, nous exhortons que le gouvernement enquête rapidement le meurtre perpétré à Djibo. Et pas seulement à Djibo, parce que Djibo, c'était pas la première fois qu'on avait dénoncé les exactions comme ça. Depuis 2018, on avait dénoncé les exactions et on avait remarqué que les exactions, à cause de le manque de justice, le manque des enquêtes, donc les exactions ont beaucoup multiplié. Vraiment, notre plaidoyer s'est bien sûr concentré sur l'importance des enquêtes et aussi que les autorités devraient s'assurer que les résultats des enquêtes soient rendus publics. si le gouvernement ne sont pas en mesure de le faire, il doit inviter les experts internationaux. Comme le gouvernement avait dit, le ministre de la Défense a dit que ce n'était pas eux, donc on a dit, ok, donc c'est la chance de le ministre de la Justice d'ouvrir une enquête, qui aura peut-être plus de chances d'être vraiment neutre. Mais aussi, on demande de qu'il y ait la présence de la prévotale, parce que c'est la prévotale qui doit assurer la discipline dans les opérations militaires et qu'il y a aussi un soin psychologique pour le même soldat. Parce qu'on a remarqué dans toute la région du Sahel, la plupart des atrocités majeures sont commises après dès qu'il y en avait le soldat mort dans les opérations djihadistes. Donc on a vu qu'il y a une dynamique de représailles contre la population Peul qui sont subconnues de tenir le groupe djihadiste. Donc je crois que l'action de le gouvernement américain, c'est une façon de pression sur le Burkina Faso pour vraiment assurer une enquête indépendante et neutrale.
Monsieur Diallo, lutter contre l'impunité est indispensable pour le renforcement de l'état de droit et de la confiance entre les forces de défense et de sécurité et la population. Votre anecdote de tout à l'heure l'illustre très bien. Comment y arriver dans une situation de fréquentes attaques djihadistes, parfois entremêlés à des conflits intercommunautaires?
Tout est urgent et il faut le faire, et il faut avoir la capacité de le faire. Enfin, je pourrais dire que l'accusation tout à l'heure des faillites et des manquements des gouvernants peut être tempérée en disant qu'aucun gouvernement nulle part au monde et de tout temps n'a réussi à accomplir 80% même de ce qu'il a promis pendant la campagne ou pendant la quête du pouvoir. Est une réalité. Parce que simplement, tant qu'on n'est pas dans l'exercice du pouvoir, on s'illusionne de ce que l'on peut réaliser. C'est dans la pratique du pouvoir qu'on se rend compte de ses limites. Mais ceci dit, entre réussir à réduire la corruption à 50% au bout de quelques années, ce qui est acceptable, on pourrait dire c'est bien, mais il faut faire mieux, et refuser de faire des enquêtes crédibles et d'arrêter des auteurs de crimes et de les traduire en justice, il y a quand même une grande différence.
Monsieur Diallo, est-ce que le gouvernement a encore de marge de manœuvre pour asseoir la paix dans ces régions qui sont perturbées? C'est une situation qu'on n'a pas vue, par exemple, pendant le régime de Compaoré.
Il en a de moins en moins, et plus ça dure, plus il ferme toute porte de possibilité de redresser la situation. Une petite anecdote pour expliciter l'exemple que Corinne vient de donner. À l'est du Burkina, il y a des zones classées que des terroristes contrôlent aujourd'hui. Et dans ces zones-là, l'administration a tracé ces zones, a délimité ces zones et a dit aux populations, vous n'avez plus d'autre droit d'aller là pour chasser, pour cultiver, pour faire quoi que ce soit. Ce sont des zones classées, vous n'avez plus le droit d'y mettre les pieds. A-t-on pris le temps de discuter avec les populations pour leur demander pourquoi vous y allez? Qu'est-ce que vous y faites? Voici les conséquences de votre fréquentation de ces espaces-là. Voici ce qu'on voudrait faire de ces espaces et voici les résultats attendus qui sont bons pour vous, qui sont bons pour l'environnement, qui sont bons pour nous tous. A-t-on pris le temps de discuter avec ces populations des semaines, voire même des mois? La meilleure règle, la meilleure loi observée de la meilleure manière, c'est quand chaque personne en fait sienne et se comporte en observant cette règle et cette loi. Ce n'est pas en ayant un gendarme derrière chacun. Malheureusement, l'administration que nous avons dans nos pays, au Burkina et ailleurs, il n'y a que la couleur de la peau qui a changé. Mais la mentalité de l'administrateur colonial est la même. On vient, on donne des ordres aux populations et elle n'a qu'à exécuter sans chercher à comprendre pourquoi. Donc, pour répondre à votre question, tant que nous ne changeons pas de logiciel, de considération, de discussion, de respect, de gouvernance avec les autres, mais on ne réussira jamais. On sera obligé tout le temps de recourir au bâton. Hein? Et maintenant à la Kalachnikov pour gouverner.
Nous arrivons au terme de cette émission de l'Amérique et vous. Merci à Corinne Dufka, directrice pour l'Afrique de l'Ouest de Human Rights Watch.
Merci infiniment, c'est un plaisir.
Merci Ismaël Diallo, activiste burkinabé, pour votre contribution.
Merci et merci Corinne.
Lionel Runamira Gahima a assuré la mise en onde. Eric Maniakiza vous souhaite une excellente soirée à toutes et à tous. À très bientôt.